L'intelligence artificielle devait tuer les experts comptables.
Ah ça, c'était vraiment la promesse.
Ou plutôt la menace constante qu'on entendait résonner absolument partout depuis l'explosion des modèles génératifs. La fin d'une profession, purement et simplement.
Oui, on nous prédisait une vraie hécatombe.
Et pourtant, en observant le marché du travail aujourd'hui, on fait face à un constat vertigineux. Il manque actuellement près de 30 000 professionnels en France dans ce secteur.
C'est un paradoxe total.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on se pose une question simple. Comment la profession censée être la toute première victime de l'automatisation de masse se retrouve-t-elle, au contraire, en situation de pénurie absolue de talents? Bonjour et merci d'être avec nous pour décrypter tout ça.
Bonjour, c'est un sujet absolument central aujourd'hui parce qu'il dépasse largement le cadre d'une seule profession, en fait. Ça touche au cœur même de l'économie de nos entreprises. On a souvent une vision très caricaturale du choc technologique.
C'est clair. Aujourd'hui, notre mission pour cette analyse, c'est de confronter ce fameux discours apocalyptique sur la fin du travail humain avec ce qui se passe réellement sur le terrain.
Dans les cabinets et chez les clients, oui.
Exactement. Et pour comprendre cette dynamique, on va s'appuyer sur une source particulièrement éclairante. C'est un article de fond, très fouillé, rédigé par Didier Taormina et publié en juin 2026.
Une excellente analyse d'ailleurs.
Absolument. Et l'objectif, c'est vraiment de disséquer ce paradoxe. D'un côté, on nous décrit depuis des années un cimetière professionnel imminent, l'image de l'employé noyé sous les tableurs et remplacé par un algorithme. Et de l'autre, on a un secteur en pleine ébullition.
Et c'est précisément là que se trouve la thèse centrale de notre discussion. L'intelligence artificielle, en fait, ne détruit pas ce secteur d'activité. Elle agit plutôt comme un catalyseur de réinvention.
Elle ne tue pas le métier, elle le transforme.
Voilà. On ne parle pas du tout d'une crise mortelle, mais d'une mutation structurelle. Une mutation qui rend ce métier non seulement plus attractif pour les nouvelles générations, mais surtout infiniment plus stratégique pour la pérennité de l'économie.
Bon, décortiquons tout ça avec les chiffres, parce qu'au final, ce sont eux le meilleur démenti à ce discours ambiant un peu anxiogène.
Les chiffres ne mentent pas.
Exactement. Puisque l'on prédit la mort du métier, on devrait logiquement observer une chute libre des recrutements, des vagues de licenciements, des écoles qui se vident. Or, l'épreuve rapportée par notre source dresse un portrait diamétralement opposé.
Complètement opposé, oui.
Début 2026, la plateforme Indeed recensait plus de 30 000 annonces actives pour le poste d'expert comptable.
30 000, oui.
Et Hello Work ajoutait 9 000 offres supplémentaires de son côté. L'Observatoire des métiers prévoit même 13 000 créations nettes de postes.
C'est énorme!
13 000 créations nettes, c'est pas du tout la photographie d'une industrie en soins palliatifs, ça.
Ah non, loin de là. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment l'état d'esprit de la profession face à tout ça.
Comment ça? Ils ne paniquent pas?
Pas du tout. La profession n'est pas tétanisée. C'est ce que révèlent les données du Conseil national de l'ordre. Face à ce raz-de-marée, on pourrait s'attendre à une levée de bouclier, à un réflexe de protectionnisme féroce, quoi.
Un peu comme d'autres secteurs qui ont essayé d'interdire l'IA au début.
Voilà. Pourtant, 91% des professionnels perçoivent l'IA comme une opportunité concrète.
91%, c'est quasi unanime en fait.
Presque oui. Et plus marquant encore, 71% d'entre eux ont déjà testé l'IA générative dans leur processus interne.
Ah oui, donc ils ont déjà les mains dans le moteur.
Exactement. On a affaire à une profession qui fait preuve d'un pragmatisme assez remarquable. La vague est arrivée et ils ont choisi d'apprendre à surfer dessus plutôt que d'essayer d'ériger des murs illusoires.
Ce choix de l'adaptation, ça me fait penser à une comparaison très concrète. C'est un peu ce qui s'est passé dans la gastronomie avec l'invention des robots multifonctions ultra performants, non?
C'est une très belle image.
On aurait pu crier à la fin des cuisiniers sous prétexte que la machine coupe, cuit, mixe et tout ça plus vite que l'humain.
Et sans jamais se fatiguer.
Voilà. Alors qu'en réalité, l'industrie de la restauration cherche aujourd'hui plus de chefs et de créateurs que jamais. Le robot gère la découpe des oignons en série, bon, mais c'est toujours le chef humain qui conçoit le menu, qui pense l'expérience client.
La comparaison illustre parfaitement le déplacement de la valeur. Mais dans la finance, l'enjeu est encore plus profond. Parce qu'il modifie carrément le modèle économique du cabinet.
C'est-à-dire ?
Ça va plus loin que la simple aide en cuisine. Absolument. Le robot mixeur ne change pas fondamentalement le fonctionnement d'un restaurant. Dans l'expertise comptable, l'automatisation supprime une tâche, certes, mais elle ne supprime pas le métier. Historiquement, la valeur de la profession, elle reposait sur la discipline pure, la saisie rigoureuse de colonnes de chiffres.
La fameuse image du comptable, le nez dans ses classeurs.
C'est ça. Mais aujourd'hui, cette valeur fondamentale se déplace vers le haut.
Et c'est précisément là qu'il y a une faille apparente dans la logique, en tout cas un paradoxe qu'on doit éclaircir. Parce que, si on en croit les chiffres, 70% des tâches répétitives sont désormais gérées par la machine.
70%, oui, c'est la norme actuelle.
La saisie pure, le rapprochement bancaire fastidieux, le traitement visuel de centaines de factures, des opérations qui prenaient des minutes entières par document, se font aujourd'hui en quelques fractions de secondes.
C'est instantané.
Donc, mathématiquement, si on accélère 70% du travail à ce point-là, on devrait logiquement avoir besoin de beaucoup moins de collaborateurs. Comment on peut diviser le temps de travail par 10 sur la production de base et quand même avoir besoin de créer 13 000 nouveaux postes?
Eh bien, c'est vraiment le cœur du sujet. Et si l'on relie ça à la situation globale, le paradoxe s'explique par un mécanisme économique très classique de la demande.
Ah !
La demande a augmenté, avec la finalité réelle du métier. Pendant des décennies, la demande pour du conseil stratégique de la part des petites et moyennes entreprises était immense. Mais elle restait étouffée.
Étouffée par quoi ?
Par le coût.
Exactement.
Le chef d'entreprise ne pouvait pas se faire ce conseil pointu, tout simplement parce que le budget qu'il allouait à son cabinet partait intégralement dans les heures facturées pour de la simple saisie réglementaire.
Juste pour être en règle avec les impôts, en somme.
Voilà, la mise en conformité coûtait trop cher. Il ne restait plus de budget pour le conseil.
Donc, en automatisant la conformité, on n'a pas réduit le gâteau, on l'a rendu accessible pour pouvoir vendre une autre prestation, c'est ça?
C'est exactement ça. Le coût de production de la donnée brute s'effondre grâce à l'IA. Et par conséquent, les ressources humaines et le budget des clients se libèrent pour répondre à cette demande de conseil qui, elle, a toujours existé.
D'accord, l'argent est réinvesti.
Et le temps aussi. Le rapport de l'éditeur Sage, publié en 2025, confirme cette bascule opérationnelle. Il note que 46% des professionnels utilisent l'IA au quotidien.
46%.
Et c'est une hausse spectaculaire quand on sait qu'il n'était que 18% en 2023.
Le bond est impressionnant, en effet.
Oui, et le temps récupéré, il n'est pas utilisé pour rentrer chez soi à midi. Il est réinvesti massivement dans des missions où l'intelligence humaine et l'analyse de contexte sont, pour le coup, impossibles à répliquer par un algorithme.
Ok, l'automatisation libère du temps pour l'analyse. Mais que font-ils concrètement de ce temps libéré? Vers quoi se tourne cette fameuse nouvelle valeur ajoutée qui justifie de tels recrutements de talents?
C'est simple, l'industrie entière pivote vers ce qu'on appelle aujourd'hui la comptabilité prédictive.
Prédictive, donc on essaie d'anticiper ce qui va se passer.
C'est tout l'enjeu. Historiquement, le métier fonctionnait en regardant dans le rétroviseur. Le bilan, c'était juste une photographie du passé.
Un constat d'archive, en gros.
Voilà. Le professionnel arrivait en fin d'année et certifiait que l'entreprise avait dépensé telle somme, gagné telle autre. Le constat d'une réalité déjà révolue. Mais en 2026, avec la puissance d'analyse de données de l'IA, le paradigme change radicalement. On demande aux professionnels de regarder par le pare-brise.
L'image est frappante. Le pare-brise plutôt que le rétroviseur. On passe de l'historien de l'entreprise au navigateur.
C'est l'idée, oui. Il s'agit d'anticiper. De générer des prévisions de trésorerie dynamiques, de mettre en place des alertes instantanées sur d'éventuelles dérives de dépenses.
De faire des simulations, en fait.
Exactement. Des simulations financières en temps réel. Prenons un dirigeant qui envisage de recruter 3 nouveaux salariés le mois suivant. Le professionnel, aidé de ses outils d'IA, va modéliser instantanément l'impact de ses embauches sur la trésorerie à 6 mois.
Tout de suite, pendant le rendez-vous?
Oui. En croisant les données de l'entreprise avec des variations saisonnières et des indicateurs macroéconomiques, tout ça mouliné par l'IA.
C'est fascinant. Mais attendez, permettez-moi de pousser la réflexion un cran plus loin, pour me faire l'avocat du diable.
Allez-y.
Si l'intelligence artificielle est devenue à ce point performante pour prévoir l'avenir, générer des tableaux de bord interactifs et simuler la finance en temps réel, pourquoi le dirigeant de la PME ne s'abonne-t-il pas directement au logiciel de prédiction ?
C'est la grande question, oui.
Bah oui, pourquoi continuer à payer un cabinet si le programme peut cracher le même scénario probabiliste directement sur un téléphone portable? La logique voudrait qu'on supprime purement et simplement l'intermédiaire humain.
C'est une objection très naturelle. Et c'est d'ailleurs souvent la première source d'angoisse chez ceux qui découvrent ces technologies. Mais l'analyse de notre source met en lumière une limite structurelle et pour l'instant insurmontable de l'intelligence artificielle.
Laquelle ?
La machine est phénoménale pour agréger des données et produire un scénario statistique. Mais ce dont elle est absolument dépourvue, c'est de jugement contextuel, de nuances interprétatives et surtout d'empathie.
D'empathie. La comptabilité a besoin d'empathie.
Plus que jamais. L'IA va envoyer une alerte indiquant que la trésorerie sera dans le rouge dans 3 mois. C'est un signal froid.
La donnée est là, mais pas le sens, c'est ça?
Voilà. L'IA ne sait pas que ce dirigeant traverse, par exemple, une période de divorce complexe qui affecte sa concentration ou qu'il entretient une tension non formulée avec son fournisseur principal.
Ah, oui, tout l'aspect humain émotionnel qui entoure les affaires.
C'est ça. Ou encore qu'il ambitionne secrètement de transmettre son entreprise à sa fille d'ici 2 ans. Le professionnel, lui, devient un confident stratégique. Un tableau de bord qui clignote en rouge sur un écran, ça crée juste de l'angoisse pour le chef d'entreprise.
C'est vrai que recevoir une notification « vous allez faire faillite », c'est pas très constructif.
C'est terrible. L'intervention humaine, elle, consiste à interpréter cette alerte froide, à intégrer l'écosystème personnel et professionnel du client et à construire un plan d'action réaliste et rassurant. C'est ce pilotage stratégique qui est facturé aujourd'hui, pas le calcul du chiffre en lui-même.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si l'on s'arrête à cette promesse du professionnel devenu un super stratège assisté par l'IA, le tableau semble juste parfait.
Idyllique, oui.
Une technologie prête, des humains valorisés sur du conseil de haut niveau, une fluidité totale. Or, la réalité du terrain vient briser ce conte de fées technologique. Notre source révèle une statistique qui pose vraiment question.
La fameuse douche froide.
Exactement. On a dit que 91% des professionnels étaient enthousiastes. Pourtant, dans les faits, à peine 29% des cabinets ont réellement mis en place une démarche structurée pour intégrer cette intelligence artificielle.
C'est un décalage immense.
Il y a un gouffre vertigineux entre l'enthousiasme de principe et la réalité opérationnelle. Pourquoi ce blocage massif ? Est-ce que c'est le prix prohibitif des licences? Ou peut-être la résistance culturelle de partenaires plus anciens qui refusent de changer?
Alors, cela soulève une question importante. La résistance culturelle joue un rôle inévitablement. Passer d'une logique de production de bilan à une logique de conseil prédictif, ça demande de repenser entièrement la facturation et le management.
C'est tout un modèle d'affaires à revoir.
Oui, mais le véritable mur contre lequel se heurtent ces cabinets, le frein absolu détaillé dans l'analyse, c'est en fait un problème purement technique. C'est la qualité de la donnée.
La qualité de la donnée. On en revient à un principe bien connu en informatique, alors, la fameuse règle qui dit que si on fait rentrer des déchets dans le système produira des déchets en sortie.
C'est le nœud de la guerre. L'intelligence artificielle, aussi sophistiquée soit-elle, n'est qu'un moteur de traitement. Si le compte bancaire du client n'est pas correctement synchronisé avec l'interface...
Ce qui arrive tout le temps dans la vraie vie.
Tout le temps. S'il manque des factures ou si les justificatifs scannés sont flous ou illisibles, le moteur tournera à vide ou produira des aberrations. Et le danger est même décuplé ici.
Pourquoi décuplé?
Parce que l'IA va traiter ces données fausses à une vitesse fulgurante et amplifier les erreurs de manière exponentielle. L'algorithme ne vient pas miraculeusement compenser le désordre administratif d'un client.
C'est marrant. On pourrait utiliser une comparaison avec nos systèmes de navigation modernes.
Comment ça?
Ben, si on entre une mauvaise adresse de destination dans un GPS dernier cri, doté d'une connexion satellite parfaite et de mise à jour trafic en temps réel, l'outil va calculer le trajet le plus rapide, de manière super impressionnante.
Oui, très vite.
Mais il va juste nous guider vers le mauvais endroit avec une efficacité redoutable. Le GPS ne peut pas deviner où on voulait aller si on lui donne les mauvaises coordonnées.
Le parallèle est très juste, avec une nuance cruciale cependant. Dans le monde financier, la mauvaise destination n'est pas toujours détectable au premier coup d'œil.
Ah oui, une erreur de calcul peut passer inaperçue au milieu d'un tableau complexe.
Exactement. C'est pour cette raison que la supervision humaine, rigoureuse et méticuleuse, demeure un prérequis non négociable. Avant de pouvoir faire de la comptabilité prévictive, le professionnel doit mener un travail colossal d'organisation en amont.
Il faut faire le ménage avant d'inviter l'IA.
C'est ça. Il doit structurer la captation des données chez son client, imposer des processus propres et vérifier la cohérence des flux. La machine a impérativement besoin de ce cadre immaculé pour libérer son potentiel.
Donc, pour résorber ce gouffre entre les 91% de théoriciens enthousiastes et les 29% de praticiens réels, il y a un travail d'infrastructure énorme à accomplir.
Un travail de titan.
Il faut structurer la donnée avant d'espérer la faire parler. Et on constate d'ailleurs que c'est devenu une industrie colossale à part entière. Les estimations du cabinet d'études Markets & Markets sont particulièrement révélatrices là-dessus.
Oui, les prévisions financières sont vertigineuses.
Le marché mondial de l'IA appliqué spécifiquement à ce domaine financier devrait peser environ 3,1 milliards de dollars d'ici 2028.
3,1 milliards, c'est pas rien.
Ce chiffre est essentiel pour comprendre la dynamique, en fait. On n'investit pas 3 milliards de dollars pour rayer une profession de la carte. Cet argent finance le développement d'une industrie de soutien.
Tout à fait. Et le déploiement d'outils à 3 milliards de dollars requiert inévitablement des cerveaux spécifiquement formés pour les manipuler et en tirer profit.
Des cerveaux humains, donc.
Absolument. C'est le second grand chantier de cette transition, et sans doute le plus crucial pour l'avenir, la refonte totale de l'écosystème éducatif.
Les écoles s'adaptent, j'imagine.
Face à ce défi d'intégration, oui, les instituts régionaux de formation de l'ordre, ainsi que les écoles spécialisées, opèrent une véritable métamorphose de leur cursus.
On imagine aisément que les examens ne se limitent plus à la vérification d'écriture manuelle ou à la mémorisation stricte du code des impôts, non ?
Les fondamentaux restent nécessaires, évidemment, parce qu'il faut comprendre ce que la machine calcule, mais la priorité se déplace. L'architecture des systèmes d'information, la maîtrise des algorithmes d'analyse, le contrôle des flux de données...
Légué au rang de module optionnel en fin de parcours, non, c'est devenu le cœur du réacteur pédagogique. Les étudiants d'aujourd'hui sont formés pour devenir des pilotes de flux de données complexes, autant que des spécialistes de la fiscalité. L'approche est vraiment systémique.
C'est un changement de posture radical pour un étudiant.
Complètement. Donc, pour toute personne qui s'interrogerait sur la pérennité de cette filière, la question « le métier existera-t-il encore ?» est définitivement caduque.
La réponse est un grand oui.
Oui. La seule véritable interrogation, c'est « quelles seront les nouvelles compétences exigées et comment le système éducatif prépare-t-il cette nouvelle génération d'analystes ?»
Alors, qu'est-ce que tout ça signifie concrètement, au final ? Si l'on rassemble toutes les pièces du puzzle, le message est limpide. L'ennemi destructeur de la profession n'est pas l'intelligence artificielle générative.
Non, clairement pas.
Ni l'algorithme qui s'exécute sur des serveurs distants. L'unique menace mortelle pour ces professionnels, c'est l'immobilisme.
C'est le mot juste. Le refus de s'adapter.
Le refus persistant de faire évoluer son modèle économique, de passer de l'exécutant discipliné au stratège éclairé. Ceux qui s'obstinent à regarder dans le rétroviseur finiront inévitablement dans le décor.
Percutés par des clients qui exigent beaucoup plus de réactivité.
Voilà. En revanche, ceux qui ont compris comment utiliser le pare-brise technologique ont une autoroute dégagée devant eux, avec une demande d'accompagnement qui n'a jamais été aussi forte.
La clé de voûte de cette révolution, c'est l'adaptabilité. Une compétence qui réclame d'ailleurs une certaine humilité intellectuelle, je trouve.
Pourquoi de l'humilité ?
Parce qu'il faut accepter de désapprendre les méthodes qui ont fait le succès de la profession pendant 40 ans pour en embrasser de radicalement nouvelles. Les outils logiciels vont inévitablement devenir plus autonomes, plus fluides, plus intuitifs.
Et la place de l'humain là-dedans ?
Au milieu de cette accélération technologique, une constante demeure inébranlable. C'est le besoin viscéral du chef d'entreprise d'être écouté, rassuré et orienté dans la tempête par un père humain en qui il a une confiance totale.
Et cette réflexion nous amène à une pensée finale assez provocatrice, je dois dire, pour prolonger un peu notre analyse.
Je vous écoute.
Il suffit de se projeter un instant et d'imaginer une ironie fascinante. Si, dans un avenir très proche, les machines s'occupent de manière exclusive de toute la rigueur mathématique, de l'alignement des colonnes et des calculs fiscaux complexes,
oui, oui.
Eh bien, les experts de demain seront peut-être recrutés sur des critères diamétralement opposés. La priorité ne sera plus du tout la maîtrise arithmétique, mais le quotient émotionnel.
C'est une excellente perspective.
On chercherait avant tout des professionnels pour leur créativité, pour leur capacité d'empathie, pour leur habileté psychologique face à des dirigeants en période de crise ou face à des choix de vie cruciaux.
On recruterait des confidents, en fait.
C'est ça. La technologie la plus froide et la plus calculatrice que l'humanité ait jamais créée aurait alors réussi un tour de force inattendu, transformer un métier de chiffres stricts et de travail solitaire en une profession dominée par la psychologie et les relations humaines pures.
Le technicien austère des clichés s'efface pour laisser place aux confidents stratégiques. Voilà une perspective qui redéfinit fondamentalement notre vision de la valeur du travail à l'ère des algorithmes.
Un très beau paradoxe pour conclure cette analyse. Sur cette ouverture, il est temps de clore notre dossier du jour. Un grand merci pour votre éclairage passionnant.
Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir.
Merci de nous avoir suivis et retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.